Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
De retour au 88.3 CFAC, c'est le 9 qui se poursuit en ce vendredi. Alors, ce vendredi, mon Dieu, j'ai hâte la semaine finisse. En ce mercredi 2 octobre, Sarin, tu nous parles de politique américaine, du système politique américain.
Oui, bien, j'ai divisé ma chronique en deux, comme était mention hors onde. Donc, on peut penser que ça fait plus de 30 ans que l'ancien premier ministre du Parti libéral du Canada invite la population à se présenter aux urnes pour aller voter. Si c'est le discours rassembleur tenu par le premier ministre Jean Chrétien qui confirme la popularité des libéraux qui seront à la suite réélus, le peuple québécois, lui, va se souvenir du fameux 4 novembre au soir. Oui. Mais s'il y a une date à retenir pour vous, mordu de politique américaine, ou juste que vous êtes curieux, c'est le 5 novembre prochain, soit la date de la prochaine élection présidentielle qui aura lieu chez nos voisins du Sud. D'abord, il faut comprendre le rôle du président dans le régime présidentiel américain. Il va s'occuper du pouvoir exécutif, le Congrès va se charger du législatif et la Cour suprême du pouvoir judiciaire. Je vais aussi faire une grosse parenthèse sur le Congrès américain. C'est un congrès qui est bicaméral, il va être composé de deux chambres, soit la chambre haute, le Sénat, puis la chambre basse, la chambre des représentants. Chaque chambre est respectivement constituée de 100 sénateurs et de 435 représentants qui sont renouvelés lors des élections de mi-mandat. Les élections de mi-mandat aux États-Unis, on peut penser aussi que c'est un gros vote de confiance pour le président, s'il y a eu de la confiance de la chambre, donc le président ne va pas opérer à lui seul. Ses opérations. La composition actuelle du Congrès est à majorité démocrate, avec 48 démocrates, puis 3 indépendants qui vont aussi être plutôt en faveur des démocrates, 50 républicains. Puis ici, Kamala Harris, elle va agir à titre de présidente de cette chambre-là, donc elle va avoir un poids plus important. En ce qui a trait pour la Chambre des représentants, quant à elle, elle va être à majorité républicaine à 51% de sa composition. En ce qui a trait à la Cour suprême, ce sont 9 juges qui sont nommés par le président et approuvés par le Sénat à une majorité simple. Puis les 3 organes gouvernementaux fonctionnent dans un mécanisme de supervision, de surveillance entre les 3 paliers de pouvoir afin d'éviter les abus. Donc ça avait été écrit dans la Constitution. On peut penser au « check and balance ». Donc, justement, pour pas qu'il y ait d'abus qui soient faits d'un palier du gouvernement, il va y avoir l'approbation des juges par le Sénat à la Cour suprême. Puis le président aussi va avoir beaucoup plus de difficultés à passer aussi des lois ou aller en guerre, par exemple, sans le autorisation du Congrès. Puis ici, pour comprendre les élections aux États-Unis, il faut analyser le système bipartisan américain. C'est une tradition, encore une fois, qui est bien ancrée, s'inscrit dans la Constitution, qu'il va seulement avoir 2 partis. À l'époque, ce sont le parti de Jefferson. Puis j'aimerais aussi lancer une question autour de la table, puisque vous êtes là, puis pensez-vous que l'attitude cynique entre les 2 grands partis politiques des États-Unis, c'est un phénomène récent ou c'est quelque chose qui a été établi lors de la Constitution, puis les opposants politiques ont toujours eu des attitudes plutôt cyniques les uns envers les autres?
Ben oui, d'une certaine manière, parce que l'autre parti est toujours le plus problématique. le plus problématique dans toutes ces politiques. En fait, non, c'est pas vrai. À une autre époque, des fois, on avait quand même les rouges qui disaient « Bon, ça, c'est correct. Les bleus, vous avez bien fait ça. » Et inversement, oui, les bleus, ça va, les rouges, etc. Mais ce que plus récemment, surtout avec le phénomène MAGA qui s'est comme greffé aux républicains, bon, ben, eux, tout est la pire affaire qui peut pas exister, puis les propositions sont jamais assez bonnes des adversaires, puis tu sais, du monde qui se crie après, on en voyait avant, mais on dirait qu'avec cette branche-là, MAGA-là, Make America Great Again, on dirait que c'est... pas que c'est pire, mais on dirait que c'est plus flagrant, que ces personnes-là vont toujours dire le contraire, vont vouloir destituer du monde, vont, tu sais, ça va, ils vont toujours vouloir aller à l'encontre des autres. Je sais pas. C'est l'impression qu'ils donnent, du moins.
Ben, je peux poursuivre alors. Ben, je peux penser que c'est quand même aussi un phénomène qui est assez récent, là. Alex parlait du phénomène MAGA. On peut aussi penser à des événements semi-récents de lorsque ça a commencé la polarisation politique bipartisane avec notamment Sarah Palin qui était gouverneure en Alaska. Puis elle, sa stratégie, c'était vraiment de marteler son adversaire, de sortir des scandales, de sortir des lapins du chapeau lorsque le moment était opportun. Puis elle avait aussi une grande popularité parce que c'était quelqu'un qui était assez proche de ses fans, puis des électeurs. Puis aujourd'hui, on peut penser aussi que cette désinformation-là, où ça repose aussi dans le manque de confiance envers les institutions, puis c'est un phénomène qui prend de l'ampleur aux États-Unis. On peut penser, Alex a parlé du MAGA, mais aussi vraiment des fanatiques de Trump ou des mouvements conspirationnistes de QAnon. Puis c'est une des conséquences les plus graves de cette polarisation-là. C'est vraiment reflété lorsque le Capitole a été envahi le 6 janvier 2021. C'est vraiment quelque chose de grave dans une démocratie de pas reconnaître le résultat des élections. Puis c'était quelques centaines de personnes qui ont pris d'assaut le Capitole. Puis les conséquences de ça, ça a été des centaines de policiers qui ont été blessés, mais aussi une méfiance à l'intérieur même des gens qui font partie du Parti républicain puis qui veulent se dissocier de cette branche-là plus radicale. Puis de l'autre côté, c'est encore plus une méfiance. Donc, il y a un fossé aussi qui va se créer, qui s'est créé depuis peut-être une vingtaine d'années, une trentaine d'années entre les Rouges, les Bleus, entre les Républicains et les Démocrates. Puis j'ai mené aussi à la polarisation qui a causé aussi des blocages qui ont eu lieu au Congrès. Parce que le président doit avoir l'approbation ici du Congrès pour passer ses lois ou passer des projets. Puis j'avais un président ici en tête, puisqu'il a été là pendant deux mandats. Ben c'est Barack Obama. Puis lors de son premier mandat, il y avait les deux chambres. En fait, il y avait la majorité du Congrès était démocrate. Mais malgré ça, il n'a pas réussi à faire fermer la prison de Guantanamo Bay, qui était une prison où on envoyait les plus dangereux criminels terroristes contre les menaces contre les États-Unis, là, des terroristes associés à Al-Qaïda, notamment.
En tout cas, c'était la prémisse, en tout cas.
Oui, c'est ça. Ils disaient ça. Puis c'était aussi une prison extrêmement controversée pour les droits humains, des pratiques de torture. Vous allez voir ça sur YouTube, c'est plus visuel et graphique, si vous aimez ça. Mais le Congrès avait mentionné que ça représentait un danger de fermer la prison, puisque des prisonniers pourraient aussi se retrouver parmi la population américaine. Puis j'allais peut-être un petit peu plus rapidement sur son deuxième mandat, mais son deuxième mandat, Obama est à nouveau confronté à des échecs, puisqu'il veut faire passer une réforme sur les armes à feu pour avoir plus d'instructions, parce que c'est assez facile de se procurer une arme à feu aux États-Unis. Puis en 2016, on rappelle qu'il y a eu 15 000 morts par balle d'armes à feu. Puis ça, c'est aussi le résultat de plus de 340 tueries de masse. Ensuite, aussi, un autre blocage, ça avait été sur le salaire minimum. Puis le salaire minimum des États-Unis n'avait pas augmenté sur le palier fédéral. Il était à 7,25 $ en 2009, à suite d'une augmentation d'Obama qui avait réussi à faire passer c'est une augmentation de 12%, mais lorsqu'il est sorti en 2017, ben, le salaire minimum n'a pas augmenté en 2017, mais là, ça a vraiment été des blocages dus au fait que le Congrès était à majorité républicaine. Donc, le salaire minimum n'a jamais augmenté.
Quand même, mais c'est vrai, tu l'as mentionné, Sarah Palin, on dirait qu'on l'a oublié avec le temps maintenant qu'elle s'est comme faite dépasser au niveau des déclarations controversées, mais c'est vrai qu'à une autre époque... Elle a été comme une précurseur, j'ai envie de dire, même si c'était bon, c'était peut-être pas tout à fait la même branche. Quoique aujourd'hui, je suis même pas sûr à qui elle donne son appui. Sarah Palin, mon Dieu, quel personnage quand même. Merci, Sarah. On poursuit ça un peu plus tard à l'émission et on fait une courte pause. Au retour, on parlera avec Anaëlle. D'Octobre Rose, comme tu avais intitulé ta chronique, courte pause ici sur les ondes de CFAQ.